Bonjour. Vous allez entendre l'enregistrement du colloque du 21 janvier 2026 organisé à la Maison des Réfugiés à Paris, intitulé « Quelle psychanalyse pour penser les dominations et soigner leurs effets ?» Propos liminaires de Claire Mestre et Daniel Delanoë, « Penser les dominations en clinique ».
Bien, merci beaucoup, merci Monsieur Lotfi Wanezar, directeur général donc d'Emmaüs, de nous accueillir, d'accueillir le colloque dans cette maison des réfugiés qui est vraiment une très grande œuvre et qui résonne bien avec la pratique que nous avons, en particulier Claire Mestre et moi qui travaillons avec les exilés dans nos consultations transculturelles. Nous remercions également Marie-Rose Moreau, professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Paris, qui a soutenu ce colloque, qui nous a orienté aussi vers la Maison des Réfugiés, ainsi que Dominique Versini. Et je remercie l'Association internationale d'ethnopsychanalyse, dont elle est présente et qui accueillera le podcast du colloque. Je remercie l'association Ethnotopie, présidée par Claire Mestre, qui participe aussi, l'établissement public de santé Barthélémy Durand, dans l'Essonne, qui prend en charge la réalisation des affiches des flyers, avec Estelle Caffier, Willem Guichard, Barbara Parisi-Vignando, du service communication, ainsi que la réalisation du podcast et la mise du podcast sur le site de la cité culturelle de l'établissement Barthélémy Durand, avec Véronique Battilly et Denis Reynaud, que je remercie, qui passera peut-être parmi vous tout à l'heure. Nous remercions M. Sébastien Manero, le directeur de la stratégie, et M. Daniel Jeancourt, le directeur de l'établissement Barthélémy Durand. Je remercie également les stagiaires de la consultation transculturelle qui nous aident à la bonne marche du colloque, Akos Barin, Dudina Delus, Gaël Le Billan, Campan. Je remercie toute l'équipe de la Maison des Réfugiés aussi, grâce à qui le colloque a pu se mettre en place. Un grand merci à Emmanuel Laurin pour l'aide au formulaire d'inscription, à Antoine Coquart qui s'occupe de la régie de la visiotransmission. Je remercie aussi la belle librairie L'Atelier qui nous propose des ouvrages des intervenants et d'autres auteurs et autrices. Et je remercie Zérignan Grobly, peintre et psychothérapeute à Abidjan, qui nous a gracieusement autorisé à reproduire son œuvre « Figure du passé » sur le programme et l'affiche du colloque. Deux mots d'introduction sur donc ce colloque « Quelle psychanalyse pour penser les dominations et soigner leurs effets ?» Eh bien, je vais citer Sophie Barre du collectif « Nous toutes » qui disait « On ne peut pas lutter contre une domination qui n'est pas pensée ». Et je dirais à sa suite qu'on ne peut pas soigner les effets d'une domination qui n'est pas pensée. Or, nos souffrances, les souffrances des patients, les souffrances de la population, sont pour une large part des conséquences des différents processus de domination. Le concept de domination permet de penser les violences non comme un élément strictement individuel, mais comme un fait social, un processus structurel. Quelles sont ces dominations? Sans doute dès les premières sociétés humaines et de façon plus ou moins intense, domination masculine des hommes sur les femmes, domination des adultes sur les enfants, domination de classe à partir des néolithiques, avec l'esclavage, les castes, l'hiérarchie sociale, domination impériale, coloniale, raciale, domination sur les minorités, minorités sexuelles, personnes vulnérables et d'autres encore. La domination s'exerce par la violence fondamentale de refuser ou dominer le statut d'être humain digne de droit et de respect. Elle s'impose par la violence physique, psychologique, sexuelle, juridique, sociale, idéologique et d'autres encore. La domination s'exerce toujours en se justifiant. Elle avance bardée de mythes et de dieux, drapée de croyances et de cultures. Elle se dissimule dans la construction pseudo-savante d'une nature du dominé, de son corps, de sa biologie, de son cerveau, de son psychisme, autorisant et nécessitant l'inégalité. Elle s'inscrit dans une nature humaine, entre guillemets, qui serait forcément mauvaise et destructrice. L'homme est un loup pour l'homme, dit l'adage qui court depuis Plaute Augustin d'Hippone et Hobbes, et à soi les règnes des empereurs et des rois, et de tout autre ordre social autoritaire. L'idéal d'une domination est d'être invisible comme telle, réalisant ainsi une domination symbolique absolue. La violence symbolique est tout pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de sa force, écrivaient Bourdieu et Passeron. Or, comme l'a montré Dorothée Ducy, l'inceste est au cœur des dominations. Or, la psychanalyse a joué et joue encore un rôle important dans l'invisibilisation des dominations, au premier rang desquelles l'inceste. Bruno Clavier va revenir longuement sur cette histoire tout à l'heure. Mais de par son ambition, sa production, son appareil conceptuel, ses diffusions, ses extensions, ses applications au-delà du soin, son prestige, sa place dans la culture, au moins à une certaine époque, ses institutions, son histoire, la psychanalyse occupe une place particulière dans le champ des psychothérapies et dans le champ social. Notre colloque prend sa source en janvier 2021, quand Camille Kouchner publie La Familia Grande. Quelques jours plus tard, c'est l'explosion de MeToo Inceste, et en mars, la création de la commission indépendante sur l'inceste et la violence sexuelle aux enfants. Un mouvement qui semble ne pas avoir eu d'équivalent dans d'autres pays. À l'automne 2021, Claire Mest m'a fait part de témoignages de personnes en analyse depuis longtemps et qui, à ce moment, ont eu accès à des souvenirs d'inceste. Inceste dont l'existence était devenue pensable pour ces personnes et même pour l'analyste, même pour leur analyste, grâce au puissant mouvement social de dénonciation. Nous avons alors organisé le séminaire « Les dominations, un impensé de la psychanalyse ?» accueilli et soutenu par Marie-Rose Moreau à la Maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris. Nous avons consacré la première séance en octobre 2022 à la question de l'inceste avec Eva Thomas et Bruno Clavier. Séminaire dont le présent colloque est un aboutissement. Je vais peut-être dire encore un mot. Au fil de ce séminaire, Claire Mestre et moi, en écoutant Eva Thomas, Bruno Clavier, Jeffrey Moussaïef-Masson, et avec la lecture et la rencontre de Dorothée Ducy, nous avons identifié comment la psychanalyse s'est fondée sur le déni des crimes que sont l'inceste et les autres violences sexuelles sur les enfants et les autres, et comment le concept central du complexe d'Œdipe est venu masquer la réalité des incestes en déresponsabilisant les agresseurs et en expliquant les troubles des victimes par un conflit psychique interne. J'ai prolongé récemment cette analyse en situant la psychanalyse dans la culture du viol et dans la culture de l'inceste, en particulier dans le cas d'Aura. Alors que Freud, dans les années dites pré-psychanalytiques, 1895-96, avait fait la découverte majeure du lien entre les symptômes et les souffrances des personnes dites hystériques et l'inceste et les agressions sexuelles, Freud a renié cette découverte en 1897. C'est une longue histoire, mais je dirais qu'il a probablement été trop seul pour affronter les rapports justement de domination auxquels il s'affrontait et pour leur résister. Et donc ce renoncement de Freud a eu des conséquences majeures sur tout le développement ultérieur de la psychanalyse, de la psychologie et de la culture en général, avec des conséquences dans les mondes judiciaires, sociaux et autres. Et donc à sa suite, les courants dominants de la psychanalyse et la psychiatrie et la psychologie ont figé cette position et n'ont pas reconnu ou ont minimisé la réalité de ces violences et de leurs effets, se rangeant de fait dans la perspective de ce qu'on a identifié depuis comme la domination masculine et la domination adulte. Pourtant, quelques victimes témoignent de ce que la psychanalyse les a sauvées ou grandement aidées. Dorothée Ducy, Vanessa Springora et tout récemment encore Judith Godrèche. En lisant et en écoutant Florent Gabarron-Garcia, nous avons pris la mesure d'un autre tournant majeur, celui de 1929, quand Freud dit à Reich qu'il n'est pas du ressort de la psychanalyse de sauver le monde, puis avec la publication de Malaise dans la culture, où il développe une conception ontologique fondamentalement destructrice de la nature humaine avec l'instinct de mort. Donc nous pouvons distinguer, à la suite de Florent Gabarron-Garcia, une psychanalyse réactionnaire qui nie la réalité de l'inceste et des autres violences sociales historiques, ou ne fait pas le lien entre les effets de ces violences et ces violences elles-mêmes, et d'autre part, ce que nommons une, ou plutôt des, psychanalyses critiques qui les prennent en compte et les pensent avec les patients. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir donner la parole à ces collègues qui pensent des psychanalyses critiques. Je m'arrête là pour l'instant et je donne la parole à Claire Mestre.
Oui, allez, après toi. Petit problème de timing. Donc merci pour l'accueil. Et merci aussi à Daniel de faire ce chemin ensemble depuis 2021, alors que les questions certainement ont commencé depuis bien longtemps. Voilà, donc introduction à ce qu'on va appeler transitoirement des psychanalyses critiques ou ethnopsychanalyse critique, je reviendrai sur ce terme, qui n'est pas tant un corpus, qui n'est pas tant des théories bien ancrées, mais au contraire une psychanalyse mineure, pour reprendre le terme de Tammy Ayush, c'est-à-dire tremblante dans ses interprétations, mais solide dans son écoute et ses observations. Alors je dirais que pour moi, les questions ont commencé, alors moi je me présente surtout comme une clinicienne, je pratique ce qu'on appelle la psychiatrie transculturelle à Bordeaux, au sein d'une consultation hospitalière et associative, où je reçois beaucoup de réfugiés, au sens large du terme, des femmes, des bébés, des familles, des mineurs non accompagnés, et former, je dirais, au ce qu'on appelle le complémentarisme, c'est-à-dire avoir au moins double référence. Pour moi, la psychanalyse et l'anthropologie, je suis médecin psychiatre et également anthropologue. Voilà. Et puis, il y a quand même quelqu'un d'autre dont j'ai croisé le chemin par la lecture il y a bien longtemps, c'est Frantz Fanon, qui, lui, a articulé, sans vraiment le théoriser, le psychisme à l'histoire. Donc, c'est une lecture... Alors, c'est une lecture ancienne, parce que quand j'étais jeune médecin, je lisais, mais sans peut-être l'articuler directement à mon écoute. Et progressivement, jusqu'à maintenant, puisqu'on sait que Frantz Fanon est quand même remis à l'honneur, on peut dire qu'il n'a pas théorisé cette articulation, mais il l'a vécu en tous les cas. En tous les cas, ce séminaire m'a permis d'élargir non seulement ma méthodologie d'une psychanalyse en dialogue avec les autres sciences humaines, mais de confirmer cette question des dominations et de la psychanalyse. Donc, je ne pourrais pas citer tous ceux qui nous ont apporté beaucoup au cours du séminaire, mais je citerai voilà, Gabin Garcia, Françoise Davoine, que je connaissais avant ce séminaire, et bien sûr les théories féministes et de genre qui croisent aussi nos questions cliniques. Donc, des dialogues, des contradictions, probablement, mais qui doivent laisser à l'humain sa complexité et les lieux d'ambiguïté. Par exemple, la pulsion de mort, sur lequel on discute Daniel et moi, comment la comprendre ? Est-ce une hypothèse psychique située dans l'histoire de l'humanité ou bien une construction culturelle qui l'essentialise ? Qui peut répondre ? Personne. Mais il faut dialoguer. Voilà, donc Bruno Clavier, Muriel Montaigu, Martin Miller, qui nous a invités, je pense, à dialoguer avec la psychotraumatologie et peut-être refonder la question des fantasmes. Rejetons de l'inconscient. Est-ce des désirs voilés ou bien des événements traumatiques indicibles, retranchés, pour reprendre le terme de Françoise, mais bien présents. Donc pour moi, c'est une psychanalyse qui invite à la narration, au récit, à créer, à déplier. Nous avons été aussi soucieux de l'épistémologie, avec Geoffrey Masson, Isabelle Alfandari, des concepts que l'on a abandonné, donc je ne reviendrai pas sur l'histoire du complexe d'Oedipe, dont Eva Thomas, ça c'est important, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi des victimes, des théories maltraitantes, pour reprendre le concept de Françoise Sironi, c'est-à-dire des théories qui sont appliquées avant même l'écoute, je dirais, et qui maltraitent les personnes en analyse. Donc on peut dire que c'est des critiques extérieures à la psychanalyse, mais qui doivent interroger, bien sûr, les psychanalystes. Françoise Sironi, c'était aussi par rapport, bien sûr, à la clinique des réfugiés. Donc, ceci nous amène à la difficulté d'être critique de ses propres affiliations, c'est-à-dire comment nous, psychothérapeutes, psychanalystes, pouvons interroger nos affiliations et notamment celles qui ont été intériorisées sur le divan. Voilà, donc il ne s'agit pas seulement de démêler nos histoires infantiles, mais aussi les lieux des répétitions théoriques. Voilà, donc le racisme, qu'on a pu aborder dans ce séminaire grâce, je dirais, à deux psychanalystes, Fakhri David, donc anglophone, et Tammy Ayouch, qui a fait un livre très intéressant sur cette question-là. Et je dirais que la question de la transsubjectivité, en plus des questions de contre-transfert, terme apporté par Martin Miller, non pas comme un terme nouveau, mais comme un terme qui peut interroger, je dirais, le sitting. Voilà. Donc voilà, des choses à penser et je dirais comment nous mettre à l'œuvre avec ces nouveaux chantiers, sans renoncer bien sûr à l'hypothèse de l'inconscient et de la technique psychanalytique, l'association libre, l'héritage même critiqué de nos prédécesseurs avec l'objectif de soigner et de traduire la souffrance en mots. Comment rendre cette pratique ouverte à tous aussi, c'est-à-dire pas une psychanalyse de l'entre-soi, mais une psychanalyse qui accueille les plus démunis et les plus éloignés finalement de notre société et de nos théories, c'est ce que nous vivons avec les réfugiés. Alors, bien sûr, avant nous, il y a eu des critiques, Marie Balmary notamment, que nous avons pu accueillir et qui... Il y a déjà des avant-coureurs qui avaient commencé à critiquer, non pas tant l'intérêt de la psychanalyse, ça s'est pas remis en cause, mais comment elle pouvait produire aussi des systèmes de domination. Voilà, donc comment travailler les hiérarchies incontournables? Nous sommes, il faut bien revenir là-dessus, et je pense que Tammy Ayouch aussi le dit bien, c'est-à-dire comment reconnaître aussi que nous sommes dans un système de pouvoir, mais comment faire avec et créer peut-être des lieux où justement les lieux de soins où les hiérarchies sont amenuisées, pensées, et pour pas qu'elles se répètent. Un domaine qui m'est cher, c'est aussi travailler son œil. Ça, c'est Frantz Fanon qui le dit. C'est-à-dire, bien sûr, il y a l'écoute, il y a les dispositifs, mais il y a aussi le regard que nous portons sur l'autre. Et je dirais que nous ne sommes pas tout à fait maîtres de notre regard et qu'il faut le penser pour aborder les questions de la différence, d'apparence, de peau. Et déconstruire les préjugés. Moi, je pense que la déconstruction des préjugés ne se fait pas avant la rencontre, elle se fait pendant la rencontre. Et ça, c'est un très gros travail qui, à mon avis, ne peut pas se faire tout à fait seul. Voilà, donc nous aurons certainement à essayer de définir ou tout au moins de dessiner les contours des psychanalyses et des ethnopsychanalyses critiques hein, en faisant référence à Roberto Beneducci, bien sûr. Mais voilà, nous allons laisser parler nos grands sachants et nos grands psychanalystes. Voilà.